Allez, on va faire un clin d'œil à notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et à la une, la clôture des Jeux Paralympiques.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Les Jeux Paralympiques, c'est donc terminé. L'Olympiade parisienne s'est conclue par un grand show musical au Stade de France. C'est donc terminé et rideau sur les Paralympiques, Michael
ouais,
Gineski.
Après une dernière médaille d'argent venue de Nelia Barbosa en para-canoë sur 200 mètres, la France conclut donc la compétition à la 8e place. Un total de 19 médailles d'or, 28 médailles d'argent, 28 de bronze, 75 podiums, juste devant l'Australie. Mais loin derrière la Chine, hein, qui a raflé pas moins de 94 médailles d'or sur 220 podiums. Le Royaume-Uni termine deuxième, 49 médailles d'or. Les États-Unis complètent le podium. La fin des Jeux Paralympiques, quelques semaines après les Jeux Olympiques, c'est surtout la conclusion d'une grande fête du sport organisée à Paris, ce dont s'est félicité le président du comité d'organisation lors de son discours, Tony Estanguet.
Le souvenir de cet été historique restera gravé en nous. Cet été où la foule dansait dans les rues de Montmartre en attendant les coureurs cyclistes. Cet été où les gens se parlaient. Cet été où la France était heureuse, quand Léon Marchand a fait crier tout un pays en rythme, à chaque fois qu'il sortait la tête de l'eau, ça a donné à des milliers d'enfants l'envie de pousser la porte d'un club de natation. Quand le nageur brésilien Gabriel Zinho a remporté 3 titres dans une ambiance de feu, il a définitivement changé notre regard sur la différence et envoyé un message très fort à toutes les personnes en situation de handicap. Oui, le sport est aussi fait pour vous.
Un show électro devant plus de 60 000 spectateurs pour achever en beauté ces Jeux. Une réussite également soulignée par la ministre démissionnaire des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.
C'est vraiment sentiment que notre pays a livré des super grands Jeux qui deviennent un peu le nouveau benchmark maintenant. Un sentiment de fierté, sentiment aussi de confiance parce que je crois que notre pays il s'est rassuré, il s'est prouvé qu'il était capable de faire des grandes choses quand il se donne des grandes ambitions, quand il travaille en équipe avec les bonnes valeurs. Et ça doit nous accompagner pour la suite.
Et parmi les sportifs engagés avec l'équipe de France, on retrouvait également le Calédonien Pierre Fairbanks, l'un des ambassadeurs de l'athlétisme handisport, qui vivait à l'âge de 53 ans ses derniers Jeux. Il nous a fait part de sa réaction depuis Paris, Pierre Fairbanks.
Des Jeux fantastiques, mes 7e Jeux, mais vraiment une ambiance extraordinaire, organisation extraordinaire. Il y avait une influence incroyable. Le stade était quasiment plein tous les jours. Là, quand tu fais un dernier tour de... Enfin, déjà, quand tu rentres sur la piste, tu entends l'ambiance, on te crie ton nom, avec un poster avec ta tête, des drapeaux et tout. C'est vraiment une arène, quoi. Hein. Et puis, ben voilà, donc là, c'était vraiment un moment inoubliable, quoi.
Un mot global pour les athlètes de l'équipe de France et notamment...
Bien plus jeune, donc ils vont continuer. Félicia, voilà, quatrième déjà pour ses premiers Jeux, pas très loin du podium. Donc voilà, s'il persiste l'entraînement avec un sérieux et une rigueur, parce que le niveau ne cesse d'augmenter, là ça va être de bon augure pour lui, pour Los Angeles. Et puis Vittorio aussi, voilà, sérieux, qui s'entraîne à Magenta, donc avec Eric Royard et Olivier Degnaud. Chapeau avec José Marquez et tout ça, donc ils sont chapeautés par Eric Royard aussi. Donc du coup, voilà, ça fait vraiment une bonne équipe. Et puis je pense que lui, bah, il va vraiment pour Los Angeles. Il sera dans la fleur de l'âge, comme on dit.
C'est le coup de projecteur qu'il fallait pour les Jeux Paralympiques.
Ouais, je pense que ça a mis en valeur tous les athlètes ayant un handicap. En général, quand il y a les championnats de France ou d'autres épreuves en e-sport, il n'y a pas vraiment autant de médiatisation. Et là, je pense que le public s'est pris au jeu. Ils ont été voir les Olympiques et du coup, ils ont été voir les Paralympiques. Et on a pu voir que c'était des athlètes, quoi. Malgré le handicap, c'était plutôt la performance, en fin de compte, qu'ils ont vu après, avec des histoires de vie de chaque personne. Et donc, si tu veux, je pense que le public s'est pris d'affection pour le paralympisme et ça va susciter, je pense, des vocations. Voilà, le handicap, c'est pas un frein à vivre une vie normale. Et que le handisport, c'est vrai que ça, ça permet de découvrir un monde incroyable, quoi.
Un dernier message pour les auditeurs d'RRB, pour les Calédoniens qui ont suivi de près ces Jeux de Paris.
Bien sûr, j'allais le faire. Remercier toute la Calédonie, parce que franchement, j'ai des messages de tout le monde, et Félicien et Vittorio aussi. Et c'était vraiment un message de soutien, parce que on est une petite île et on a réussi à avoir encore des Calédoniens dans cette équipe de France, et de faire parler de la Calédonie à travers le sport, à faire parler de la Calédonie en bien. Merci à tous les Calédoniens, les auditeurs et tout le monde de nous avoir mis à l'honneur. Ouais, c'est super. Merci à tous.
Et voilà pour ce témoignage de Pierre Ferbanque à l'issue donc de ces Jeux Paralympiques. Je vous rappelle qu'il a terminé 4e du 800 mètres, 5e du 100 mètres, 6e du 400 mètres fauteuil. Vittorio Cavacava finit 7e du concours du lancer de poids F57 et du concours de javelot F57. Et Félicien Siapo a terminé lui à la 4e place du 100 mètres T44 avec un record d'Europe à la clé. Des performances plus qu'encourageantes devant plus de 65 000 personnes et dans la perspective maintenant des Jeux de Los Angeles 2020.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, on va défiler maintenant le reste des résultats sportifs sur la scène nationale et internationale avec Léo Fichou. On va commencer, Léo, par le football et la suite de la Ligue des Nations.
Et oui, après sa lourde défaite 3-1 contre l'Italie samedi, l'équipe de France affronte la Belgique demain matin à 5h45, heure de Nouméa. Les Belges, qui, on le rappelle, se sont imposés 3-1 eux aussi sur Israël lors de leur premier match.
Du tennis, et Yannick Sinner a remporté son deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année.
Le numéro 1 mondial a balayé l'Américain Taylor Fritz en finale de l'US Open, une victoire en 3-7, 6-3, 6-4, 7-5. Une très belle année pour l'Italien qui a donc remporté l'US Open, mais aussi l'Open d'Australie, deux Masters 1000 et deux ATP 500.
Le rugby avec une double actualité. Le week-end a été marqué par la première journée du championnat de France, mais aussi par la suite du Rugby Championship.
Le champion en titre, le Stade Toulousain, n'a pas tremblé face au promu. Une victoire bonifiée 43-18 sur Vannes. Toulouse qui partage la tête avec Clermont, tombeur de Pau, 39-7. On écoute la réaction d'Hugo Mola à l'issue de la rencontre, l'entraîneur toulousain qui attend un peu plus de son effectif.
On a eu une préparation un peu tronquée, donc on ne savait pas trop où on allait mettre les pieds et comment on allait réagir. Je trouve qu'après on n'a quand même pas trop forcé notre talent par moment, et que je pense qu'il faudra se mettre quand même un peu plus en danger sur notre rugby si on veut assez rapidement rivaliser avec les équipes que j'ai vues jouer aujourd'hui. Mais c'est quand même un peu brouillon partout, le ballon était un peu glissant. Il y a des adaptations autour de la règle, même s'il n'y a pas de grands changements, il y a quand même des pénalités supplémentaires qui tombent un peu plus vite qu'auparavant. Donc, force est de reconnaître qu'on y a mis l'engagement quand même pour réaliser une performance à l'extérieur, même si notre rugby n'était pas parfait ou génial.
Les autres résultats en top 14, La Rochelle a pris le dessus sur Toulon, Castres a battu le Racing 92, Bordeaux a largement dominé le Stade français, Lyon s'est imposé à Montpellier, et en ouverture, on le rappelle, l'Aviron bayonnais est venu à bout sur le fil de l'USAP. Un mot de rugby championship, puisqu'on jouait également, les Blacks se sont une nouvelle fois inclinés contre l'Afrique du Sud, une défaite 18-12. Les Wallabies sont seuls en tête avec avec 4 victoires en 4 matchs. De son côté, l'Argentine a écrasé l'Australie 67-27 et pointe désormais à la deuxième place du classement. La Nouvelle-Zélande est troisième, l'Australie est quatrième.
Ce ne sont pas les Wallabies, mais les Springboks qui sont en tête. Voilà, absolument. Allez, on passe au cyclisme avec la Vuelta et Primoz Roglic qui était vraiment trop fort.
Trop fort pour la concurrence, et c'est sa quatrième victoire sur le Tour d'Espagne après 2019, 2020 et 2021. Il devance Ben O'Connor de 2 minutes 36 et Hendrik Maas de 3 minutes 13. Deux Français sont tout de même dans le top 10. David Gaudu termine 6e, Pavel Sivakov 9e.
On passe à l'actu des sports mécaniques avec d'abord cette nouvelle victoire pour Marc Marquez en MotoGP.
L'Espagnol remporte sa deuxième course d'affilée après le Grand Prix d'Aragon la semaine dernière. Il a remporté ce week-end le Grand Prix de Saint-Marin à Misano. Les Français réalisent de belles performances. Fabio Quartararo, parti 10e, termine 7e. Joan Zarco, qui s'est lancé de la 16e place, termine 12e.
Et puis on termine avec le rallye de l'Acropole ce week-end.
Sur les terres grecques, c'est un Belge, Thierry Neuville, qui s'est imposé. Il devance deux autres Hyundai, celle de Dani Sordo et Dodd Tanak. Le Français Sébastien Ogier est parti en tonneau dans la dernière spéciale. Il termine 16e.
On va faire une pause dans ce magazine des sports. On se retrouve pour parler de l'actu sport en Calédonie avec notamment notre invité, le vice-président de la Ligue de Vaha. À tout de suite.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Dernière semaine pour faire des économies. Les 10 jours à petit prix chez Citec. C'est jusqu'au 14 septembre avec des promos jusqu'à moins 50%. Nous vous attendons à la braderie 3 rue Fernand Forest à Ducos. Suivez Citec NC sur Facebook.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, une deuxième partie consacrée à l'actu sport en Calédonie. Avant de voir les résultats du week-end, Mickaël Juneski, on va évoquer l'actualité du VAR avec notre invité.
Exactement, Richard Drouet, bonjour.
Bonjour.
Vice-président de la Ligue calédonienne de VAR et canoë-kayak. Tout d'abord, ce devait être ce week-end la reprise tant attendue pour les pratiquants, le retour d'une compétition. Ça n'a pas pu avoir lieu, si on peut entendre votre commentaire là-dessus. Hein. Cette compétition avait une longue distance annulée ce samedi.
Oui, tout à fait. Annulée. Avec, je dirais, adresser un coup de griffe au service administratif du Haut-Saria pour avoir interdit notre manifestation sportive de samedi matin, en l'occurrence notre championnat de canoë longue distance V1 qui devait se dérouler en baie de Lansvata. Il faut savoir que lorsque l'on organise une course de VA, nous devons transmettre nos demandes de plan d'eau à la mairie Nouméa aux affaires maritimes un mois à l'avance. Il faut également savoir que ce calendrier est envoyé au club en début d'année afin de permettre aux rameurs de s'entraîner pour des dates précises. Certains sont même obligés de demander des jours de congés exceptionnels pour ceux qui travaillent le samedi. Cette interdiction nous est parvenue en urgence le vendredi soir à 18h10, la veille de la course, sachant que les clubs du Nord étaient déjà descendus sur Nouméa. Le scandale, à mon sens, est de confondre les manifestations politiques et les manifestations sportives, ce qui n'est pas la même chose. Ces administrations ne se rendent pas du tout compte du travail de l'organisation qu'il y a en amont, de la préparation physique que cela demande aux athlètes pour des dates précises. Je pensais malgré tout qu'après 3 mois d'émeutes qu'ont connu les Canadiens, il était important de se retrouver sur les terrains de sport. Le VAA se déroule sur le domaine public et l'interdiction des manifestations et des regroupements était sur le domaine public. Et pendant qu'on nous interdisait notre manifestation sur les terrains de sport, se déroulaient des compétitions de football à Magenta, de rugby à Rivière-Salée et même un championnat de windsurf et de funboard en baie de Sainte-Marie. Donc c'est une totale incompréhension que tous les rameurs et dirigeants ont ce jour en voyant les différences que l'on fait entre les différents sports. Nous avons l'impression d'être les seules victimes de cette interdiction de regroupement et manifestation décidée durant ce mois de septembre.
Eh bien, le message est passé, hein, Richard Drouet. On sent évidemment la frustration et évidemment on était sur place, on a vu tous les clubs qui regrettaient cette interdiction, cette annulation de compétition. Justement, un coup d'œil dans le rétroviseur pour le VAA, depuis que la crise a débuté, où en est-on? Évidemment pas de pratique, du moins des entraînements possibles, mais surtout des grands rendez-vous déjà manqués, hein, c'est ça le plus gros
impact. Des entraînements, tout à fait, des entraînements qui se poursuivent au sein des clubs. À l'international, nous n'avons pas pu participer au championnat du monde de VA de vitesse à Hawaï, dans la mesure où il n'y avait pas de financement possible. On est bien d'accord là-dessus. Et après, le problème, c'est qu'on se doit maintenant de préparer les mini-jeux l'année prochaine à Palau, puis les Jeux du Pacifique à Tahiti. Donc, vous imaginez bien que les Tahitiens, ils ne nous attendent pas. Depuis, ils ont déjà 2 longueurs d'avance. Donc, j'attends de voir comment le Haut-Commissariat va pouvoir laisser les sportifs évoluer et les compétitions se dérouler. Parce qu'à force d'interdire tout le monde, c'est même pas la peine. Il vaut mieux mettre la clé sous la porte dès le maintenant.
Pour le moment, la Ligue, hein, pas question de baisser les bras tout de même.
Absolument vous essayez pas. Déjà de. Non, notre calendrier, le problème, c'est qu'on est obligé de concentrer maintenant sur les 3 derniers mois. Toutes les manifestations. Dans 15 jours, on a le championnat V3. J'espère que d'ici là, on aura l'autorisation. Mais maintenant, déjà, le championnat V1 est déjà reporté au 5 octobre, donc dans un mois. Voilà.
Pour les clubs, pour les pratiquants, les pratiquantes, hein, comment ils vivent cette période? Vous avez continué d'échanger régulièrement avec tout le monde du VA, j'imagine.
Le monde du VA continue à s'entraîner, hein, le soir au niveau des clubs, le week-end et tout. Donc, de ce côté-là, tout le monde était prêt. Et il se préparait déjà depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, nous n'avons pu faire qu'une seule compétition, le championnat V3 mixte. Et depuis, blackout. Donc, c'est un peu dur, je dirais, d'encaisser à chaque fois ces interdictions.
Vous en avez parlé, vous allez citer un rendez-vous pour savoir pourquoi la décision et comment elle a été prise.
Ah ben, la décision elle a été prise pour moi, elle va vite. Hein. Dès le vendredi soir, je vous dis, la veille pour le lendemain, la mairie était affolée, ils m'ont appelé sur mon portable pour me le signaler. Le problème, c'est que tous les rameurs étaient déjà organisés. Toutes les réservations de plans d'eau étaient déjà faites, de matériel était fait. Les gars du nord de Koumak étaient déjà descendus sur Nouméa. Donc ça a un impact financier pour nous aussi. Parce que maintenant, on se doit de rembourser toutes ces personnes-là.
Pour la Ligue, j'imagine, vous essayez déjà tant bien que mal de travailler un scénario le plus optimiste possible pour cette fin d'année en tout cas.
Oui, oui. Maintenant, personne n'est capable de savoir qu'est-ce qui va se passer sur la fin de l'année. Nous, on fait comme si, moi j'ai repris le calendrier, on a repris le calendrier, tout est calé. Et on se doit, mais maintenant on ne s'attendait pas à ce qui est maintenant des interdits administratifs. Voilà.
Et le pire des scénarios, à l'inverse, ça pourrait être un coup dur s'il n'y a toujours pas de possibilité de reprendre déjà pour cette fin d'année.
Ah ben le coup dur, c'est qu'on n'aura aucune possibilité de faire des présélections et des sélections. Donc je ne vois pas comment on peut organiser une sélection pour les mini-jeux l'année prochaine sans avoir au préalable fait des compétitions. Ça me paraît complètement injuste.
Avec votre expérience, hein, cette situation que traverse actuellement la Ligue calédonienne de Vaha depuis les émeutes, vous la voyez comment? Un des pires moments pour le sport?
C'est un des pires moments, mais il ne faut pas non plus s'affoler, il ne faut pas non plus... voilà, nous, on fait de mal à personne, on ne manifeste absolument pas, on est tout à fait apolitique. Le vivre ensemble, on le vit depuis Mathusalem, je dirais, avec tous les gars de différentes origines. Il n'y a jamais eu de problème ou quoi que ce soit, donc on ne comprend pas. On n'allait pas non plus manifester au large dans la baie des Citrons et les drapeaux. Il faut arrêter là aussi.
Un mot pour la Ligue, hein, puisque avant évidemment les émeutes qui ont impacté l'ensemble du sport en Nouvelle-Calédonie, déjà la Ligue de Vaha avait entamé son propre chantier. On peut revenir un petit peu dans les grandes lignes. Vous avez décidé de remettre les choses à plat. Vous étiez lancé sur une nouvelle dynamique.
On s'était remis sur une nouvelle dynamique, à savoir relancer au niveau des scolaires, relancer la pratique dans le Nord, essayer de relancer les clubs qui sont à l'IFU. Mais c'est vrai qu'actuellement, tout le monde est un peu, je dirais, dans le même panier, quoi. Personne n'ose se remettre au travail de peur, le jour J, d'être impacté et d'être sanctionné par l'interdiction. Donc nous, on fait comme si on continuait à faire nos championnats. On a replacé dans notre calendrier en fin d'année, mais ça va faire beaucoup de compétitions en peu de temps, quoi.
Et justement, tous les projets qui étaient lancés par la Ligue, c'est en stand-by, mais ce n'est pas
abandonné. Les projets, on est déjà au choix des entraîneurs pour les sélections pour l'année prochaine, en kayak, en Vaha, puisqu'il y a aussi maintenant le kayak, kayak de vitesse au mini-jeu et au jeu. Donc il y a pas mal de compétitions à l'international en kayak, en Australie, en Nouvelle-Zélande, des compétitions de jeunes sur la Sunshine Coast à Moulou là-bas. Maintenant, sans avec la vision de manque de subvention, je vois pas tellement comment on peut faire. Ça va être très très chaud. On n'est pas en capacité à rallier l'Australie en pirogue actuellement.
En guise de conclusion, hein, Richard Drouet, vous et puis toute l'équipe, on va dire, dans ces moments durs, hein, pour la discipline, c'est quoi le plus important pour vous? Essayer de garder le monde, les pratiquants, les rameuses, les rameurs, montrer que vous tenez bon le cap?
Moi, je garde le cap. Le comité directeur garde le cap. Les clubs ont envie de continuer, veulent continuer à s'entraîner, veulent continuer à faire des compétitions. Donc pour l'instant, oui, pour moi, rien ne change.
Eh bien, Richard Drouet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait passer ce message ce midi sur notre antenne. Merci.
Merci bien.
Allez, le reste de l'actu sport en Nouvelle-Calédonie et ça bouge du côté du football, Léo Fichou.
Avec tout d'abord la sélection calédonienne, effectivement, qui a lancé sa préparation aux éliminatoires à la Coupe du Monde. Des matchs amicaux face au club au stade Noumadélé. Ce week-end, les Cagous se sont imposés 2-1 sur Tigasspor. Les précisions du sélectionneur Johan Sidaner.
Dans un premier temps, ce qu'on voulait, c'était se rapprocher tranquillement de la date de compétition avec pour premier objectif de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. La mission, c'était vraiment de courir, de jouer, de se rassembler. Et le match qu'on a été capable de faire nous donne satisfaction. Sans parler du score qui était anecdotique, on a plutôt mis en place ce qu'on voulait, c'est-à-dire avoir le ballon la plupart du temps et essayer de mettre à mal l'adversaire. Mais on On est tombé sur une bonne, très bonne opposition de Tigac qui nous a permis d'avoir du temps de jeu et une belle opposition.
Est-ce que des sélectionnés peuvent se sentir menacés si face à vous, vous voyez des choses intéressantes?
Mais exactement, c'est le message qu'on leur a fait passer. La sélection n'est pas un dû et effectivement, il y a de la concurrence et dans tous les clubs, ils font partie eux-mêmes de clubs. Et là, c'est l'occasion aussi de voir des joueurs et l'évolution de tous les joueurs de Super League. On est très satisfait là aussi parce que ce soit dans l'effectif de Tiga ou dans celui de la sélection, on a vu 40 bons joueurs cet après-midi.
Le week-end prochain, la sélection de Johan Zidaner retrouvera Magenta, un match toujours à huis clos au stade Numa Dele. Et on rappelle que les Cagous joueront contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 10 octobre pour lancer leur campagne de qualification à la Coupe du Monde. Toujours chez les hommes, la suite ce week-end du trophée du Grand Nouméa. Samedi, Les Wetch a largement dominé Melek, 3-0. Ce soir à 18h30, suite et fin de la troisième journée, on retrouve l'AS Magenta qui sera opposé à Gaïcha. Et puis, à noter qu'en ce moment, les féminines de la sélection des moins de 16 ans jouent le premier match de leur tournoi océanien à Fidji. Elles affrontent les favorites, la Nouvelle-Zélande. Le score est sans appel à la pause. Les jeunes Cagous sont menés 5-0.
Et puis un mot de tennis, Léo, avec le tournoi multichance de la S6e kilomètre.
En finale, samedi après-midi, c'est Gilles Arregro qui s'est imposé en 3-7 sur Clément Kruczek. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Olivier Ledin, notre animateur d'une semaine sportmidable.
Merci Léo. Avant de conclure ce journal et ce magazine des sports du lundi, une information qui vient de nous parvenir à l'instant. L'église Saint-Denis de Balade a été dégradé la nuit dernière pour nous. Il s'agirait d'une tentative d'incendie sur la porte et sur l'autel de l'établissement. Un tag sur un mur de l'église aurait également été constaté ce matin. Une enquête a été ouverte pour dégradation par incendie et la section criminelle de la gendarmerie est sur place pour effectuer des prélèvements. Information sur laquelle nous reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions.